Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin.
Le commandant de CRS, Joël Le Goff, un breton père de deux enfants, s'écroule. Il est blessé à mort. Chez les forces de l'ordre, il s'agit maintenant de se défendre. On arme pistolets et mitraillettes, les premiers rangs de viticulteurs s'effondrent, au moins une dizaine de blessés et un mort chez eux. Plus de 20 blessés et un mort chez les CRS. Vous voyez l'ambulance qui fait
le corps. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Là, les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Nous sommes voués, au temps des Gilets jaunes, à considérer de près les différentes formes de révolte populaire dans nos villes et dans nos campagnes. Une émission sur le poujadisme, voici quelques semaines, avait tâché d'éclairer les origines et les mutations d'un mouvement qui avait prospéré à la fin de la 4e République dans l'univers des commerçants et des artisans à partir d'une indignation fiscale. Aujourd'hui, c'est sur le monde paysan au 20e siècle que je vous propose de concentrer notre attention sur les nombreuses protestations brutales qui l'ont parcouru et qui l'ont secoué de génération en génération. Il s'agira de s'interroger sur le déclenchement des multiples épisodes de cette histoire, sur les ressorts qui les ont suscités et prolongés, sur leur relation avec l'ensemble de la société, avec la situation économique et avec la nature des régimes politiques. Autrement dit, tout à la fois d'apprécier la spécificité de chaque moment et de débusquer des permanences et des continuités. Je vais m'appuyer pour ce faire sur la compétence d'Edouard Lynch, professeur à l'Université Lumière, Lyon 2, qui a beaucoup travaillé et publié sur ce sujet. Son dernier livre pose tout droit la question de la violence qui est en vérité primordiale. La violence des révoltés paysans contre les normes ordinaires de la vie collective en face de la violence de la répression telle que conduite par les autorités. « Oh les fourches !» Ce fut le cri de ralliement du mouvement quasi-insurrectionnel des « chemises vertes » d'Henri Dorgère dans les années 1930. Il donna d'ailleurs ce titre à son livre « De combat ». Et en vérité, on pourrait l'inscrire en épigraphe, au moins métaphoriquement, en tête du récit de la plupart des événements chaotiques que nous allons évoquer. Et d'abord, je vous emmène dans le Languedoc en 1907, lorsque les soldats du 17e régiment d'infanterie refusèrent de tirer sur les viticulteurs en révolte.
Légitime était votre colère, le refus était un grand devoir. On ne doit pas tuer ses pères et mères pour les grands qui sont au pouvoir. Soldats, votre conscience est nette, on ne se tue pas entre Français. Refusant de rougir vos baïonnettes, petits soldats, oui, vous avez bien fait. Salut à vous, braves soldats du 17e. Salut, braves piou-piou, chacun vous admire et vous aime. Salut à vous, à votre geste magnifique. Vous auriez, en tirant sur nous, assassiné la République. Comme les autres, vous aimez la France, j'en suis sûr, même vous l'aimez bien. Mais sous votre pantalon carence, vous êtes restés des citoyens. La patrie, c'est d'abord sa mère, celle qui vous a donné le sein. Et vaut mieux même aller aux galères que d'accepter d'être son assassin. Salut, salut à vous, braves soldats du 17e. Salut, brave piou-piou, chacun vous admire et vous aime. Salut, salut à vous, à votre geste magnifique. Vous auriez, en tirant sur nous, assassiné la République.
Édouard Lynch, bonjour.
Bonjour.
Je vous ai fait entendre un tube, comme on ne disait pas encore à l'époque, une très fameuse chanson, très fameuse de Monteus, qui remonte à 1907 et qui salue les soldats qui, en pantalon garant, sont refusés de tirer sur les viticulteurs en colère et en révolte. Il faut que vous nous rappeliez la scène.
Tout à fait, c'est l'épisode tragique hein, d'une mobilisation qui, en fait, paradoxalement, a été davantage marquée par une maîtrise de l'espace public hein, et une mobilisation d'une ampleur jamais connue dans la France du 19e et sans doute du 20e siècle. On oublie, ce sont des centaines de milliers de viticulteurs qui, chaque dimanche ou presque, se rassemblent dans les grandes préfectures du Midi, et cela de manière tout à fait pacifique et organisée.
Quel était le ressort de cette révolte ?
Alors le ressort, c'était les crises de mévente, hein, c'est-à-dire les conséquences de la croissance de la production du Midi et la concurrence avec des productions fabriquées à partir du sucre de betterave, hein, donc la concurrence et les fameux fraudeurs, et donc ça se traduit évidemment par la baisse des prix du vin et la capacité hein, pour les vignerons de gagner leur vie, et donc ils se mobilisent et ils se tournent vers l'État pour réclamer la mise en place d'une loi interdisant hein, ce faux vin par rapport au bon vin, évidemment, rouge du Midi. Mais c'est ce moment vraiment de mobilisation très forte et de mobilisation pacifique, il faut le souligner, puisque l'épisode de la fusillade n'est que la marque de l'échec hein, de la mobilisation, puisque ils n'ont pas encore obtenu satisfaction et que le gouvernement Clémenceau finit par mettre en place la répression et que face à cette répression, un certain nombre de régiments se mutinent.
Alors, vous parlez de la fusillade, là, ils n'ont pas tiré.
Alors, si, ils ont tiré, bien sûr. Il y a eu des victimes. Hein.
D'autres ont tiré que
voilà,
les
soldats du 17e.
Voilà,
d'autres ont tiré, mais un certain nombre de régiments, effectivement, ont refusé et se sont mutinés. Et on nourrit l'imaginaire de la protestation antimilitariste tout au long du 20e siècle, ce qui explique la fortune de cette chanson.
La date est importante parce que on rompt à ce moment-là avec les premières années de la Troisième République qui ont été relativement calmes dans les campagnes. C'est le moment où le personnel politique, notamment radical, installe la République. Gambetta, à cet égard, a joué un rôle essentiel en se fondant sur une approbation des campagnes du monde rural qui jusque-là avait été pour une bonne part méfiant à l'égard de la République, des partageux.
Tout à fait, il y a eu un long travail d'apprentissage et de conquête de la paysannerie menée depuis effectivement la Seconde République et puis surtout les années 1870 et qui, sur le terrain des mobilisations sociales, correspond à une période éminemment calme. Depuis le grand soulèvement contre le coup d'État de Napoléon Bonaparte en 1851, il n'y a pas eu de mouvement d'ampleur dans les campagnes entre 1851 et 1907. Ce calme qui traduit finalement une période de relative prospérité économique, et puis, c'est vrai, d'une attention portée par la jeune République hein, aux problèmes agricoles. On peut penser, par exemple, aux lois sur le protectionnisme hein, mis en place par Méline dans les années 1890.
Est-ce qu'on peut, à l'époque, éprouver que l'on en revient, au moins provisoirement, avec cette crise de la viticulture, aux turbulences de l'Ancien Régime ? Ces turbulences qui étaient quasiment constantes, il y avait un crépitement de protestation, comme l'a très bien dit Jean Nicolas, qui est l'auteur d'un magnifique ouvrage sur les révoltes paysannes entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Mais revenons à notre France du début du XXe siècle. Donc il y a aussi la question des formes, naturellement, des ressorts, des motifs, de l'espérance d'un mieux-être, à la fois une protestation contre une dégradation du niveau de vie et une espérance parfois presque un peu messianique d'un futur qui serait autre. Et en face, il y a la responsabilité des pouvoirs publics. Peuvent-ils ou ne peuvent-ils pas accepter un certain type de manifestation et naturellement de violence? C'est là que Clémenceau effectivement intervient. Il est président du Conseil et ministre de l'Intérieur et il va
rouler Marcelin Albert, le leader, dans la farine.
Tout à fait, oui, en l'invitant à Paris pour discuter à la fin de l'épisode de protestation, hein, puisque c'est lui qui a été l'âme de la révolte. Hein, mais c'est vrai qu'il a une faible envergure politique. Hein, ce n'est pas forcément un organisateur, hein, c'est plutôt un troubadour égaré dans une protestation paysanne. Alors, s'il parvient à unifier, à donner une âme au mouvement, c'est vrai que la sortie de crise est plus complexe. Et sur le plan politique, c'est beaucoup plus Ernest Ferrou, hein, le maire socialiste de Narbonne, qui prend en main et organise la protestation. C'est lui notamment qui lance le fameux ultimatum, hein, à partir duquel le midi entrera en récession, enfin en sécession, pardon. C'est ce jeu et cette difficulté de la gouvernance aussi du mouvement protestataire qui va permettre ce tour de force, puisqu'il paye le billet
de Clémenceau
paye le billet de Marcelin Albert et évidemment fait courir le bruit ensuite que le pauvre malheureux a été acheté en échange de pacifier le mouvement.
Cela pose la question qui est durable et qu'on connaît encore au moment des Gilets jaunes, c'est l'émergence des leaders charismatiques. Nous avons vu au début des années 2000 José Bové jouer un rôle majeur, mais à l'époque les choses sont moins aisées. Alors je reviens Édouard Lynch sur la question des jacqueries d'ancien régime, période où, en fait, Jean-Nicolas a fait émerger un nombre extrême, une grande quantité de protestations, parfois réduites à quelques-uns, quelques manifestants, et puis souvent élargi ailleurs.
Alors, ce qui change fondamentalement, et en cela la manifestation de 1907 est tout à fait emblématique, hein, c'est parce que justement les manifestations d'Ancien Régime, les jacqueries, étaient souvent des manifestations peu structurées, éphémères, liées à des contingences très particulières et qui peinaient finalement à s'instaurer dans la durée. Et ce qui traduit la naissance d'un nouveau type de protestation, hein, c'est finalement une structuration dans la durée qui passe notamment par l'émergence de leaders, par l'émergence de projections des revendications dans un espace national, qui passe par la création d'organisations spécifiques. Et on parlait tout à l'heure de Marcelin Albert. Au moment où se fait cette structuration du mouvement de 1907, il n'y a pas encore véritablement de syndicats agricoles. La loi sur les syndicats date de 1884. Dans le monde agricole, ces syndicats ont été très largement lancés par plutôt l'aristocratie ou les élites républicaine, et il n'existe pas véritablement de leader paysan, il n'existe pas de structure organisée, et cela facilite ou cela permet de comprendre les hésitations que prennent ces mouvements entre, d'une part, des mouvements qui commencent à s'organiser, et puis des mouvements qui parfois dégénèrent, parce que ils sont finalement sans organisation et sans but précisément fixé.
Cette donnée de l'insuffisance pour l'efficacité de la révolte des organisations est liée très directement au fait que dans les villes ou dans les régions industrielles, les ouvriers sont regroupés, alors que ce n'est pas le cas. Et par conséquent, il y a souvent, comme dans l'Ancien Régime d'ailleurs, des apparitions de mouvements désordonnés. Au moment de la guerre des farines, qui a contribué à ce que le grand Turgot échoue dans ses réformes sous Louis XVI, on relève qu'il y a 123 émeutes différentes à travers les campagnes, un crépitement.
Ce qui change dans le modèle entre guillemets contemporain de la manifestation paysanne qui se met en place à partir de 1907, c'est justement que on assiste à une homogénéisation du territoire, on assiste à une circulation des pratiques entre qui sont communiquées par la presse, par la circulation des hommes et des idées, et du coup les mouvements peuvent s'installer dans la durée et prendre une dimension pérenne à travers en particulier les organisations syndicales.
Les médias jouent un rôle essentiel. Il y avait depuis longtemps les rumeurs, la grand-peur pendant l'été 89 s'est répandue comme à la vitesse d'un cordon Bigford, parce que sur les foires et partout on se racontait les choses. Mais enfin, c'est tout de même au début du XXe siècle, avec l'apparition en particulier des photographies qui jouent un rôle très notable. Vous l'observez pertinemment dans votre livre, Édouard Lynch, la photographie vient figurer l'événement et porter des émotions qui sont elles-mêmes destinées à provoquer une contagion.
Tout à fait, mon hypothèse est même qu'elle permet de fabriquer un modèle, c'est-à-dire de montrer aux autres comment on manifeste. Il y a un exemple particulièrement frappant à cet effet, c'est qu'on connaît tous la manifestation de 1907, puisqu'elle est d'une ampleur, on l'a dit, absolument considérable, mais il y a en 1911, des manifestations en Champagne d'ampleur beaucoup plus réduite et on observe une similitude quasiment parfaite entre la manière dont les viticulteurs de l'Aube se mobilisent en reprenant finalement ce modèle de la manifestation de viticole de 1907. Et cette circulation, à mon avis, elle est permise par le fait que les viticulteurs de l'Aube se sont nourris des descriptions et des images de ces fameuses cartes postales, parce que les photos étaient éditées en cartes postales et elles circulaient à des milliers d'exemplaires, et elles montraient finalement comment on réussissait efficacement à interpeller le gouvernement et l'opinion.
D'où l'émergence de ce qu'on pourrait appeler un rituel de la manifestation qui va progressivement se définir et qui marque encore jusqu'aujourd'hui des comportements collectifs.
Tout à fait. Des rituels qui sont liés à la fois à des logiques, à des contraintes propres à la manifestation paysanne. Vous avez parlé tout à l'heure de la question de la dispersion des paysans qui sont dans les fermes. Et donc, forcément, il faut se regrouper dans des espaces, et notamment dans des espaces urbains. Et en même temps, des rituels qui sont liés davantage à des identités ou à des types de manifestations. Par exemple, le fait de s'en prendre aux bâtiments officiels, aux préfectures, parce que l'État, évidemment, est l'interlocuteur majeur. On ne retrouve pas ce qu'on trouve dans le modèle ouvrier, par exemple, le fait de s'en prendre au patron, parce que le paysan, bien souvent, est son propre patron, donc il n'a pas grand-chose à faire contre sa propre maison.
Sauf les ouvriers agricoles, mais pour l'essentiel, les paysans ne peuvent pas faire grève. Et ça, c'est une donnée majeure en comparaison avec le monde ouvrier qui, naturellement, obsède bien davantage les pouvoirs publics et qui les préoccupe pendant longtemps autrement. D'autant plus que le personnel parlementaire est élu pour la plupart sous naturel par une population rurale, même si celle-ci diminue en 1872, elle est de 69% en France et elle descend en 1911 à la veille de la Grande Guerre à 56%. Il reste que c'est une France rurale qui continue de dominer et que les parlementaires, par conséquent, ont tendance à être plus indulgents à ce égard. Vous parliez de l'invasion des préfectures. Ça, c'est une donnée vraiment durable. Nous avons vu ce qui s'est passé dans la préfecture de la Haute-Loire, puis en Velay. C'était un des moments les plus brutaux des événements, des premiers actes, comme on a dit, des gilets jaunes, même si on ne sait pas si ce sont des agriculteurs qui sont intervenus ou pas. Il reste que cela est fondamental. Je vais vous faire écouter un extrait d'un entretien avec Ephraim Grenadou, qui est interrogé par Alain Prévost le 8 février 1967.
Moi, je n'avais jamais été à la préfecture, je ne savais pas qui était le préfet, et puis il était dans une porte derrière nous. Alors là, tout le monde se détourne, et puis, entrez là. Comme j'étais en arrière, je me suis trouvé dans les premiers. Puis nous voulons enfiler dans cette porte, mais alors, vous savez, j'avais pas moyen de reculer, et puis bon, un grand couloir, et puis là, tous les employés, ils ouvraient la porte, parce que toutes les portes, sous le couloir, ils sortaient, ils rentraient. Et puis, quand on était au bout, alors là, c'était le préfet. Et j'étais en train de me demander s'ils continuaient à pousser au bout. Vous savez, ils vont nous étouffer au bout. Alors, nous voulons avec le préfet. Alors, moi, et puis pas mal d'autres, c'était pas à moi d'y faire des autres. J'étais là, mais j'avais rien à y demander. Mais enfin, vous savez, il s'est fait insulter, incendier, il s'est fait... Et puis, les dirigeants ont passé par-dessus tout le monde pour faire téléphoner au ministère de l'Intérieur en lui disant, vous êtes prisonnier des cultivateurs, vous êtes enfin tout un... Et durant ce temps-là, les gars, ils barbotaient les tableaux, ils montaient sur les canapés, les cariots tombaient en bas, c'était plutôt drôle. Et puis, même que j'avais un de mes amis qui est là, quoi, il avait barboté son stylo. Un stylo, je ne sais pas, il était jaune, c'était petit en noir, j'en sais rien. Et puis, il voulait le prendre, il l'avait pris. Et j'ai fait remettre sur la table parce que j'ai dit ça, c'est corps d'un machin, ça va encore finir mal.
Ephraim Grenadou, il parle d'un événement de 1933 et il montre bien comment, plus encore qu'avant la guerre, les autorités publiques deviennent des interlocuteurs à la fois détestés parfois, mais désirés également. Ambivalence.
Tout à fait. C'est là aussi, c'est une évolution très importante. Il y a eu des bâtiments, notamment des sous-préfectures, qui ont été mis à sac en 1907 au moment de l'explosion de la violence à la fin du mouvement. Mais ici, dans le processus de l'occupation de la préfecture, en tout cas de l'invasion de la préfecture de Chartres, hein, qui marque une des premières grandes mobilisations après l'irruption de la crise agricole en France, hein, c'est l'effondrement des prix du blé à la récolte 1932 qui va entraîner donc de nombreuses manifestations. Et là, ce qui est intéressant, c'est pourquoi on va à la préfecture, on n'y va pas de façon spontanée pour tout casser, on y va parce que le rituel de la manifestation qui s'est structuré depuis une dizaine d'années, c'est le fait de porter à la préfecture les revendications des paysans votées lors de l'assemblée, de la réunion, du meeting. On est dans un processus ritualisé de délégation de la parole des porte-parole, c'est comme les cahiers de doléances des gilets jaunes, et en fait on va les porter symboliquement à l'autorité, au préfet, pour qu'ils les transmettent aux ministres. Simplement, évidemment, un certain nombre de mouvements politiques radicaux, qui sont nombreux dans les années 30, vont s'emparer de ce mécanisme, qui est en soi un mécanisme de représentation démocratique, pour créer des désordres, c'est-à-dire pour mettre une pression physique sur l'administration et sur le régime républicain. Et il y a ce jeu très complexe dans ces années 30, parce qu'on voit à la fois certaines organisations, comme le parti de Dorgère, des Chemises Vertes, qui cherchent systématiquement à durcir la mobilisation, à emmener les agriculteurs le plus loin possible, et puis de l'autre, une gestion beaucoup plus démocratique, beaucoup plus républicaine des syndicats agricoles qui maintiennent aussi cette pratique, mais qui ne cherchent pas forcément à faire tomber le régime ou à fragiliser un régime dont ils sont finalement assez proches. Donc il y a cette ambivalence dans ce rapport à la préfecture, mais il est clair que celle-ci est désormais le lieu de convergence de la plupart des manifestations.
Oui, on voit, Édouard Lynch, progressivement, les pouvoirs publics intervenir davantage. L'État intervient davantage, pas seulement pour la répression, pas seulement pour quérir des voix au moment des élections, mais avec la responsabilité de gérer l'ensemble du milieu dès lors qu'il y a des problèmes de prix en particulier.
Tout à fait. Là aussi, il y a une certaine forme de continuité avec le passé, hein, puisque les travaux justement des historiens de l'Ancien Régime et même du 19e siècle hein, ont montré l'importance de la relation à l'État. Alors cette fois dans des contextes de rareté des grains, hein, on se tourne vers l'État pour qu'il approvisionne les marchés. Eh bien, au 20e siècle, il faut se tourner vers l'État pour qu'il régule les marchés. Parce qu'on est dans un système de plus en plus concurrentiel, avec des importations, avec des déséquilibres ponctuels. Et du coup, le marché ne joue plus vraiment son rôle, et face à la très forte instabilité des prix, les paysans, les agriculteurs demandent, en tout cas une partie d'entre eux, l'intervention de l'État et la mise en place de mécanismes de contrôle qui vont culminer notamment, qui vont être inaugurés par la grande réforme de 1936 et la création de l'Office du blé par le gouvernement du Front populaire.
Mais autrefois, c'était la logique, la séquence pénurie, cherté, révolte. Là, les choses se compliquent puisqu'il y a à la fois des moments de pénurie et des moments de surproduction avec baisse des prix. Et c'est une autre logique propre à enflammer les campagnes.
Tout à fait. Et c'est même, j'allais dire, surtout des problèmes de surplus plutôt que de pénurie, parce que dans les moments de pénurie, que ce soit pendant la Première et surtout pendant la Deuxième Guerre mondiale, la rareté est plutôt favorable aux agriculteurs qui peuvent en tirer des hauts prix de façon légale ou illégale.
Alors, il faut vous dire un mot du dorgérisme, de Dorgère, que vous avez déjà évoqué à l'instant. C'est un mouvement important et qui, d'ailleurs, est analysé souvent au cœur d'une réflexion sur le fascisme français, ce qu'il y a pu avoir de fasciste en France. Dorgère, c'est un personnage qui devient un leader dans les campagnes avec ses fameuses chemises vertes. De quoi s'agit-il ?
Les chemises vertes, c'est l'une des manifestations de ce mouvement d'organisation des agriculteurs dans les années 1920 et 1930. Hein, il y a eu un très fort mouvement de structuration syndicale avec une rivalité forte entre, d'un côté, le mouvement républicain et le mouvement conservateur. Mais ce qui est nouveau dans les années 30, et là, la guerre a joué un rôle fondamental, c'est que l'on voit émerger des tentatives d'organisation qui veulent s'émanciper émancipée finalement de la tutelle des grands propriétaires, des notables, et qui revendique une forme de spécificité paysanne. D'abord, le mot lui-même est intéressant. Hein. On revient au mot paysan qui était tombé un petit peu en désuétude depuis la fin des années 1880, où on parlait plutôt des agriculteurs, en insistant sur la dimension moderne. Là, cette revendication pour se dire paysan, c'est une façon d'affirmer une sorte de lutte des classes au village, hein, des petits contre les gros. Et Dorgère, même si lui-même a des liens avec les milieux conservateurs, bon, ça c'est une autre histoire, il va jouer sur ce sentiment d'humiliation ou d'isolement de la paysannerie pour construire ce mouvement. Et ce mouvement, évidemment, il va trouver dans la crise des années 30 un formidable exutoire, puisque les paysans n'arrivent plus à vendre leur blé, et donc ils sont prompts à se manifester et à se tourner contre l'État. Il y a chez Dorgère une très forte instrumentalisation politique. Et ça, c'est sans doute un des points importants qu'il faut mettre en évidence. J'ai tendance à dire que l'arbre Dorgère cache la forêt des mobilisations paysannes. Parce qu'évidemment, Dorgère a frappé l'opinion. Dorgère, on le place tout de suite dans le champ de l'attraction des fascismes, les fameuses chemises vertes. Mais en fait, quand on creuse la réalité, les chemises vertes, c'est rien du tout. C'est 3-4 gars auxquels on met des chemises pour faire croire. Mais en fait, les actions sont violentes, sont finalement pas très nombreuses. Elle ne pèse pas lourd, mais à une période où, là aussi, le relais médiatique est important, ça fait sens et ça interpelle l'opinion. Mais en fait, derrière le dorgérisme, il y a toute une mobilisation beaucoup plus profonde, beaucoup plus complexe, pas nécessairement violente, mais qui témoigne de cette lente émancipation et auto-organisation de la profession agricole qui va culminer ensuite, qui va s'intensifier dans les années d'après-guerre.
On connaît bien aujourd'hui le dorgérisme grâce aux travaux pionniers de Pascal Horry et, je dirais surtout, au livre important de Robert Paxton, le grand historien de Vichy, qui s'est penché sur ce mouvement qui n'échappe pas à une tentation fasciste. L'antiparlementarisme est violent, le refus radical de l'individualisme tel qu'hérité des Lumières, l'exaltation de la force, l'antisémitisme aussi que l'on retrouve. Avec cette ambivalence, les gens de Dorgère, les dorgéristes, manifestent en cas de vente sur saisie, par exemple. Et en même temps, ils s'opposent aux grèves des salariés agricoles. On ne s'étonne pas qu'il ait beaucoup admiré Mussolini et son arrivée au pouvoir dans les années 20. Il se targuait de cette fidélité à ce modèle. Et puis, comme vous le dites, en même temps, la République a résisté. Il y a eu cette solidarité de substitution aux isolés et aux dominés. Il y a eu tout un système électoral qui a protégé la République et le radicalisme a fonctionné jusqu'en 1940 assez bien à cet égard.
Oui, tout à fait. Les relais, qu'ils soient politiques ou professionnels du syndicalisme dans ces années 1930, restent relativement solides. Et il y a toute une part de protestations, d'organisations, de manifestations qui sont organisées et qui canalisent pour partie la protestation paysanne et qui permettent sans doute effectivement d'éviter des dérapages trop importants. Après, la difficulté aussi de la transformation politique du dorgérisme, c'est que c'est facile ou c'est possible de rassembler des paysans localement sur des questions locales. En revanche, c'est beaucoup plus compliqué de les emmener beaucoup plus loin, je dirais, de les transformer en véritables militants politiques. Et de ce point de vue-là, le dorgérisme politique est un échec. En revanche, il a profondément imprégné le répertoire de protestation paysanne, notamment parce qu'il a fait la synthèse, vous l'évoquiez tout à l'heure, de ses valeurs, les valeurs de la virilité, les valeurs de l'honnêteté, les valeurs des racines qui sont celles des paysans et qui, d'une certaine façon, légitiment la violence. Et ça, c'est très important. C'est l'idée de dire que la violence paysanne n'est pas la même que la violence ouvrière. La violence paysanne, c'est celle qui prend ses racines dans le sol, dans l'identité nationale. Et de ce point de vue-là, on peut et on doit la tolérer. Et c'est très amusant d'ailleurs de voir dans cette complexité de ces paysans, de ces mises en scène de la protestation dorgériste, où d'une certaine façon on va taper sur les forces de l'ordre, mais dans le même temps on chante la Marseillaise et on en appelle aux vertus de l'obéissance et de l'autorité. Et donc il y a cette espèce de tension tout à fait intéressante.
C'est pourquoi d'ailleurs Paxton, dans son livre, nous dit que c'est un mouvement où l'on peut peut-être le mieux étudier les limites d'un fascisme français dans les années 30.
Tout à fait.
Vous trouvez ça convaincant?
Oui, l'exemple est très marginal et en fait les traces propres du fascisme sont très faibles, ce qui ne signifie pas qu'elles n'existent pas, et notamment dans le discours. Et je pense qu'il y a une très forte différence entre ce qui peut être dit par exemple dans la presse d'orgériste, éventuellement à la tribune, et puis la réalité des soutiens et des mobilisations.
Il faut attendre l'après-Seconde Guerre mondiale pour que ressurgisse cette violence paysanne. Je vous conduis tout droit dans cette période en vous donnant à entendre ce reportage sur la guerre des artichauts en Bretagne à Saint-Paul-de-Léon. Nous sommes le 20 juin 1961. C'est une émission de Paris Inter.
Actuellement sur la place de Saint-Paul-de-Léon, où depuis ce matin la situation était particulièrement tendue, on attendait la décision qui devait être prise en liaison avec M. Bourvenec, lequel avait rendez-vous avec M. Pisani, ministre de l'Agriculture, et un rassemblement de tracteurs, de véhicules de toutes sortes, de camions, de voitures personnelles, d'autocars, est en train de se former sur la grande place de Saint-Paul. Que va-t-il se passer? Eh bien, les dirigeants de la SICA, l'organisme qui fédère les producteurs organisés, nous le disait tout à l'heure, nous allons passer à l'action directe. En effet, la situation est depuis un certain nombre de jours pourrie, et les producteurs ont décidé d'en finir. Il y a sur cette place un grand nombre de voitures, je vous le disais, beaucoup d'artichauts, beaucoup de choux-fleurs. Le marché ce matin était très faible en raison non seulement de la situation délicate du marché de l'artichaut, mais aussi des grèves de la SNCF, des grèves de l'EDF et des difficultés de transmission qui faisaient que les expéditeurs se montraient réservés. Je me trouve actuellement au milieu du convoi des producteurs qui convergent vers l'église de Saint-Paul. Les artichauts commencent à être jetés de tous les véhicules. Ils vont probablement, comme hier, joncher les places, les rues, les carrefours. Devant l'hôtel de ville, les forces de l'ordre se sont elles aussi rassemblées. Il y a de nombreux véhicules de la gendarmerie. Dans les rues de Saint-Paul, les touristes qui sont déjà nombreux en Bretagne profitent de l'aubaine. On ramasse des artichauts à pleine brassée, on les entasse dans les voitures. Je dois dire que le spectacle est à la fois navrant et pittoresque.
Alors comment expliquer cette résurgence de mouvements violents dans le monde de la paysannerie française, puisque c'est le sujet qui nous réunit aujourd'hui, Edouard Lynch?
Alors, il faudrait beaucoup pour parler très longtemps pour en arriver jusqu'en 1961.
Parce que nous n'avons qu'une heure, il faut vous y résigner.
Tant pis. Alors, après la guerre et la période de pénurie, où évidemment là, la question des prix ne se pose pas, dès le début des années 50, hein, à partir du moment où la production revient à son niveau normal, si je puis dire, des difficultés apparaissent, hein, et on voit ressurgir à partir de 1953 notamment, qui est une date très importante, avec des manifestations dans le Midi et des manifestations dans le sud-ouest, où on invente les barrages, c'est-à-dire que la manifestation ne se fait plus dans les villes sous la forme de défilés, elle se fait sous la forme de barrages routiers pour couper la circulation et donc pour gêner et perturber et interpeller l'opinion.
Le rituel s'enrichit. Il n'y a pas seulement la visite aux préfectures, aux sous-préfectures, où éventuellement on commence de verser du fumier, du lisier, ce qui est évidemment métaphoriquement très fort. Il y a désormais les barrages, filtrants ou pas.
Voilà, c'est vraiment une rupture très importante, hein, qui est liée forcément aux conditions même d'existence des paysans. Ils vont aussi protester en partie sur leurs espaces. Ça correspond aussi à une France où la notion de circulation devient fondamentale, hein. Si on bloque des routes, c'est parce qu'il y a des routes à bloquer. Sur les routes, il y a des camions, il y a plein de choses. Et puis il y a des vacanciers aussi, hein. La première initiative, elle est dans le Midi, elle est au début juillet. Et donc, les vacanciers en sont les premières victimes. Donc, le poids sur l'opinion est très fort.
Il n'y a pas encore autant de ronds-points, mais on peut néanmoins barrer les routes.
Voilà, on utilise, c'est assez amusant, plutôt dans le sud-ouest, encore peu mécanisé, des vieilles charrettes, des vieux tombereaux qu'on veut pas trop abîmer. Mais lorsque le nord entre dans la danse, dans les années 56-57, on voit apparaître les premiers tracteurs, hein, qui commencent là aussi à bloquer les routes, et qui évidemment sont maniables et pratiques. Donc on a ce contexte de tension sous la 4e République finissante. La 4e République finissante est une république parlementaire, elle est attentive aux représentants élus du monde rural, et elle fait voter en 57, hein, un fameux décret qui relie la hausse des produits agricoles à l'inflation, qui est une préoccupation importante. Et donc elle donne satisfaction au monde rural. Patatras, l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle, de l'orthodoxie financière, entraîne la fin de la suppression de l'indexation.
Vous dites patatras.
patatras. Et du coup, cette situation entraîne, dès 1960, une série de mobilisations pour protester et pour réclamer une meilleure rémunération des prix des produits agricoles.
D'où notamment cette guerre des artichauts, d'où des mouvements nombreux avec des leaders qui émergent, cette fois-ci Gourvennec ou Bernard Lambert, intéressant député MRP qui ensuite décide de devenir un des chefs, réussit à être un des chefs admis comme tel.
Tout à fait. Alors, cette mutation et cette transformation, elle est aussi effectivement portée par une nouvelle génération. Il ne faut pas oublier qu'on est au plein cœur de ce que les historiens ont appelé la révolution silencieuse. Donc, cette phase de modernisation, de mécanisation et d'augmentation de la productivité qui est portée par de nouvelles générations.
Oui, d'ailleurs, à la FNSEA, Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles, s'ajoute dans ces années-là le Centre des Jeunes Agriculteurs.
Tout à fait, prend son autonomie, enfin qui apparaît de façon pleine et entière en 1958 et qui va servir de réservoir à la nouvelle génération de leaders. On parlait tout à l'heure de Gourvennec, hein, le jeune leader du marché des primeurs d'artichauts qui va se battre pour organiser le marché des artichauts, le réguler, le contrôler.
Décidément, la Bretagne est très importante dans cette histoire que nous dressons aujourd'hui.
Oui, elle est à côté du Midi viticole, l'autre espace où se renouvelle et se transforme la protection, la protestation. Hein. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, hein, la Bretagne est une région extrêmement défavorisée, encore très peuplée, très peu développée, avec peu d'emplois industriels. Et les paysans, ils sont nombreux et ils sont les premiers confrontés à la faible rentabilité des exploitations, d'où une capacité de mobilisation très forte.
La Ve République donne le sentiment constamment d'hésiter entre la répression et l'apaisement, entre la sévérité et les concessions en face de cette violence potentielle. C'est le temps où un ministre très, très dynamique, Edgar Pisani, lance des réformes qui sont des réformes de structure, dont la vocation est évidemment d'apaiser le monde politique, au moins à moyen terme. Ça ne suffit pas à court terme.
Tout à fait, parce que si le gouvernement du général de Gaulle ne veut pas céder sur la question des prix, il vend, si je puis dire, à ses interlocuteurs agricoles, et notamment à ses jeunes, puisque Pisani va s'appuyer sur les figures montantes de la paysannerie, et notamment de Matisse, pour...
Michel de Matisse, qui a joué un rôle important, oui.
Tout à fait, et pour leur imposer, ou tout au moins pour leur proposer, une réforme dite de structure, c'est-à-dire de mettre les moyens pour transformer l'agriculture, pour augmenter les exploitations, pour réglementer les marchés, ce qui passe par des créations très importantes, hein, notamment la création du FORMA, hein, le Fonds d'orientation et de régulation des marchés agricoles. Donc il y a cette mise en place d'une politique interventionniste active, très représentative, hein, de la politique économique gaullienne.
Les SAFER aussi qui sont très importantes pour regrouper les terres, mais qui contribuent à cette diminution du nombre des paysans, qui est une des grandes données de cette période. On voit publier des livres tels que celui fameux de Henri Mandras, le sociologue, qui s'intitule « La fin des paysans ». Ça ne peut pas ne pas créer aussi des formes d'angoisse.
Et tout à fait. Et on a tendance à oublier que ce miracle agricole français, hein, d'une certaine façon, du point de vue en tout cas des résultats en termes de production et de productivité, il passe par un véritable sacrifice humain, si je puis dire. Hein, c'est-à-dire que des centaines de milliers de paysans doivent progressivement quitter la profession agricole et du coup trouver d'autres métiers. Cette question des structures est très importante. Vous parliez tout à l'heure des SAFER. Se nourrit notamment hein, d'une des grandes revendications à côté de la question des prix dans les années 60, qui est la question des cumuls, et dans lequel c'est illustré, hein, où on trouve la fameuse affaire Jean Gabin.
Quelle est cette affaire?
L'affaire Jean Gabin, c'est qu'en juillet 1962, une petite centaine d'agriculteurs de l'Orne investit la propriété de l'acteur à 5 heures du matin pour exiger qu'il renonce à acheter une ferme qu'il avait acquis afin d'agrandir son domaine. Jean Gabin par être acteur, hein, était aussi un passionné de chevaux et d'hippisme, hein, donc il avait fait construire un hippodrome, mais il élevait des chevaux, donc il avait besoin de terres agricoles. Or, pour les paysans, ces terres qui sont consacrées à un élevage de plaisir sont finalement prises à des agriculteurs qui, eux, ont besoin de terres pour produire et pour vivre.
Double cumul, en somme, c'est-à-dire cumul des terres et d'autre part cumul entre une profession qui promeut l'acteur et le métier d'agriculteur,
tout à fait.
Ce qui apparaît comme insupportable.
Le cumul, c'est l'accumulation des terres et c'est le cumul des professions. C'est vrai qu'on a retenu l'image de Gabin et c'est pour ça que les agriculteurs l'ont choisi, pour marquer l'opinion. Il y a un numéro de Paris Match où on voit Jean Gabin en gros plan qui dit « mon problème est aussi le vôtre hein. ». Donc voilà, on interpelle la France pour dire « attention, la menace presque collectiviste est parmi nous ». Donc ils ont choisi Gabin pour peser sur le gouvernement au moment où le Parlement discute de cette fameuse loi qui instaure les SAFER. Mais la plupart des victimes des affaires de cumul, parce qu'il y a eu des dizaines d'affaires de ce type, sont plutôt des médecins, des vétérinaires, des bouchers, des négociants, qui ont donc cette double activité, pas nécessairement illégitime, mais que les paysans considèrent comme des nouveaux accapareurs contre lesquels il faut lutter.
L'obsession des accapareurs remonte très, très loin en arrière. C'était ceux qui gardaient le blé pour pouvoir en faire monter les prix. À présent, c'est ceux qui gardent la terre. Et les SAFER dont nous parlions, ce sont des organisations qui permettent précisément des regroupements, qui les servent, qui les favorisent.
Tout à fait, et qui ont d'ailleurs été leur difficulté de mise en place parce qu'il y avait une forte résistance de la majorité gaullienne en 1962, parce que évidemment le SAFER venait à briser, enfin en tout cas aller à l'encontre du droit de propriété, puisque le propriétaire n'était pas libre de vendre sa terre à qui il voulait, il devait obligatoirement, dans certains cas, la vendre à la SAFER.
1968, mai 68, voit le monde agricole quelque peu en retrait, mais néanmoins, un certain nombre de paysans s'efforcent de s'associer au moment de protestation. C'est le temps où la télévision française propose une série d'émissions à grand succès consacrée à Jacou le Croquant. C'est un roman fameux d'Eugène Leroy qui remonte à l'extrême fin du 19e siècle, 1899, et qui évoque une révolte au temps de la monarchie censitaire, fille elle-même des révoltes de l'Ancien Régime. C'est assez topique, non ?
Oui, c'est une référence clé à deux niveaux. La première, c'est qu'elle nous permet de rappeler que ces luttes paysannes, elles ne sont pas seulement liées à l'initiative des paysans modernisateurs que l'on évoquait tout à l'heure, comme la figure de Gourvennec. Il y a aussi, à partir du milieu des années 60, une autre tendance qui s'affirme au sein de la paysannerie, qui, elle, est beaucoup plus critique vis-à-vis de ces transformations brutales, qui se nourrit d'une inspiration de gauche, voire marxiste, dans lequel on retrouve la fameuse figure de Bernard Lambert, hein, qui va devenir l'icône à la fois politique et intellectuelle de ce mouvement.
Hein. Il vient de la démocratie chrétienne.
Il vient du MRP, de la démocratie chrétienne, mais il publie au début des années 70 un livre sur la lutte des classes dans les campagnes. Donc on est bien dans une dynamique d'extrême gauche. Et c'est à ce moment-là que ce mouvement qui colonise une partie du syndicalisme des CDJA de l'ensemble de la France, c'est à ce moment-là de pousser de la gauche paysanne qu'éclate l'affaire de Jacou le Croquant. Alors, c'est là aussi, c'est pas un hasard tout à fait, l'auteur de la série Stelio Lorenzi
qui était communiste,
est un militant communiste, hein, et donc ce n'est pas un hasard s'il ressuscite cette figure de Jacou le Croquant. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le mouvement de ce qu'on appellera plus tard les paysans travailleurs, donc de cette gauche paysanne, va s'emparer de cette figure médiatique et va l'insérer dans ses propres manifestations, c'est-à-dire que l'on va faire défiler, par exemple à Bordeaux, des paysans déguisés en Jacou le Croquant, avec des pancartes « Nous sommes tous des Jacou ». Et c'est aussi avec ce cri de ralliement que des agriculteurs de l'Ouest, là aussi, interpellent un peu brutalement le ministre Olivier Guichard, là aussi créant un symbole. Et c'est juste l'occasion d'insister sur l'importance des phénomènes médiatiques, c'est-à-dire que les paysans savent de mieux en mieux utiliser la télévision pour frapper symboliquement l'opinion, mais en même temps, la télévision et la culture de la télévision nourrit leurs propres pratiques politiques et leurs propres pratiques syndicales.
Et encore, c'était avant les chaînes de télévision continues. Les années 70 voient une crise de l'élevage, et c'est de ce côté-là souvent que se porte la violence. Un homme politique important, peut-être avez-vous déjà reconnu Jacques Chirac comme ministre de l'Agriculture, populaire, très populaire dans les campagnes. Quand il devient Premier ministre, au début du septennat de Giscard d'Estaing, il est amené à théoriser la question de l'attitude des pouvoirs publics envers les mouvements agricole. Écoutons-le, il s'exprime le 26 juillet 1974 au journal télévisé de 20h sur la première chaîne.
En ce qui concerne les manifestations, je voudrais sur ce point vous donner mon sentiment. Ben, les agriculteurs ont actuellement des difficultés. Or, ils ne peuvent pas, comme d'autres catégories sociales de la nation, faire grève. Et par conséquent, ils sont obligés de se reporter sur une autre méthode pour exprimer leurs préoccupations, qui est la manifestation. En tant qu'expression démocratique d'un sentiment, c'est tout à fait naturel. Et je crois que chaque Français doit le comprendre. Là où, par contre, cela devient hautement contestable, et où cela provoque un certain nombre de réactions de la part de l'opinion publique non agricole, c'est lorsque l'on voit un certain nombre d'éléments plus ou moins contrôlés, et d'ailleurs plus ou moins agricoles, faire dégénérer des manifestations en violence à l'égard des personnes, comme ce transporteur routier qui a été rossé, ce qui est absolument scandaleux, violence à l'égard des bâtiments publics, violence à l'égard du service public, comme lorsqu'il s'agit d'arrêter un train avec les perturbations que cela peut provoquer dans la circulation et les risques que cela implique. Alors là, je demande aux agriculteurs de comprendre, et je ne suis pas suspect à leurs yeux, moi qui ai été accusé en mon temps de les avoir défendus avec trop d'énergie, je leur demande de bien comprendre que ce genre de violence ne fait rien avancer, et notamment pas la solution de leurs problèmes, risque de braquer l'opinion publique contre eux, et de toute façon ne seront pas tolérés par le gouvernement, si bien que nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour que ce type de violence qui mette en cause la liberté des autres catégories de citoyens soit réprimé de la façon la plus sévère.
Voilà une doctrine affirmée, Edouard Lynch. Et pourtant, quand on regarde la durée de cette histoire des paysans, on ne peut pas se départir du sentiment que les pouvoirs publics sont moins sévères à leur égard qu'à l'égard de toutes les autres manifestations, en particulier ouvrières. Il y a du côté de la police comme de la justice quelque chose comme une sorte de prudence en face de la répression.
Oui, c'est une remarque tout à fait pertinente et ce discours, on peut en faire effectivement une explication de texte tout à fait orthodoxe, hein, à la fois dans la critique externe, dans la date, hein, 74, on est dans un moment d'une très forte crise de l'élevage. Depuis plusieurs semaines, il y a des dizaines et des dizaines de manifestations dans tout le pays, hein, plus seulement en Bretagne. Il y a effectivement des dégradations qu'évoque le discours. Et on est dans ce processus en fait de crescendo de la violence paysanne à l'œuvre, on l'a vu depuis les années 60 et qui ne cesse de se renforcer. Il y a eu notamment les épisodes de Redon et de Quimper en 67. Et là, dans cet épisode de 1974 auquel est confronté Jacques Chirac, il a cette affirmation éminemment autoritaire. Enfin, en tout cas, il a une posture d'homme d'ordre. Or, il est clair, quand on observe finement les archives, et notamment les archives de l'action juridique, c'est-à-dire la manière dont les parquets et la justice décident ou non de poursuivre les auteurs de violences, de dégradations, etc.
Oui, d'ailleurs, c'est une des originalités de votre livre, que d'être fondé sur une étude des archives de la justice, et pas seulement de la police.
Oui, tout à fait. C'est une source tout à fait originale et intéressante, hein, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des violences, et c'est aussi pour ça que mon livre se focalise sur cet aspect-là, parce qu'il n'y a pas que de la violence dans les manifestations paysannes, mais lorsqu'il y a de la violence, l'État et la justice se posent la question pour savoir si elle poursuit ou non les fauteurs de troubles.
Dans l'histoire très récente, peut-être a-t-on pu avoir l'impression que le comportement de la justice à l'égard des manifestants, paysans ou non, a pu évoluer depuis les débuts de l'épisode des Gilets jaunes. Et cela conduit à une réflexion sur le moyen terme que vous avez faite sur le comportement des procureurs en particulier, qui sont, du point de vue des instructions générales, dans la main du gouvernement.
Ce qu'on appelle la politique pénale, hein, c'est-à-dire le choix de l'État de poursuivre ou de ne pas poursuivre une action délictueuse, et bien évidemment, elle doit tenir compte d'un certain nombre de contextes. Un contexte, je dirais, de maintien de l'ordre. Arrêter des manifestants, c'est prendre le risque de voir la manifestation empirer. Ça, c'est une observation concrète des observateurs. Hein, c'est un enjeu très fort lorsque des manifestations sont arrêtées en flagrant délit. Les autres manifestants protestent pour obtenir leur libération. Et c'est souvent une monnaie d'échange. Donc la justice transige et choisit ce qu'on appelle une politique d'apaisement. Hein, on ne va pas remettre de l'huile sur le feu. Et le problème, c'est que même après, lorsque les manifestations sont calmées, on hésite à nouveau à aller interpeller chez eux ou à relancer les enquêtes parce qu'on craint que les manifestations soient relancées.
Donc, cela concerne spécialement les paysans ?
En tout cas, moi j'ai travaillé sur les dossiers de manifestations paysannes, donc c'est ce que j'ai observé pour les manifestations paysannes. Mais on a un exemple parfait illustré par ces manifestations de 1974, dont parle d'ailleurs Jacques Chirac dans son discours, en tout cas, il faut l'expliquer comme cela, parce que si vous avez été attentif, il dit à un moment que les manifestations ont été opérées par des paysans, mais sont-ils vraiment des paysans ? C'est-à-dire qu'on fait la distinction entre les bons manifestants et les mauvais manifestants.
Tiens,
et
aujourd'hui, tiens,
ça vous rappelle évidemment un certain nombre de gros titres de la presse ou de déclarations gouvernementales. C'est-à-dire qu'on sépare le bon grain de l'ivraie. Et dans le cadre des manifestations de 1974, je vous parlais tout à l'heure du mouvement des paysans travailleurs, donc de cette gauche paysanne qui se structure dans ces années-là et qui est présente aussi dans les manifestations. Et là, on observe de façon extrêmement nette que les bons paysans, les bons agriculteurs, en gros ceux de la FNSEA, on ne les poursuit pas. Par contre, les mauvais agriculteurs, ceux qui sont classés politiquement à gauche, eux, on les poursuit. Et ça, je dirais, les archives sont transparentes sur cette politique de gestion à la fois du maintien de l'ordre, mais en même temps de la gestion politique. Parce que, et ça, il faut... Jacques Chirac, là aussi, nous le dit, il a été populaire, il a défendu les paysans, et incontestablement, depuis la fin des années 60, depuis l'arrivée d'Edgar Faure, depuis l'événement de mai 68, la paysannerie, l'électorat paysan et le monde rural en général constituent un socle politique pour le gaullisme. Et évidemment, comme le dit joliment un sénateur dans une lettre au ministre de la Justice, on ne va pas frapper des agriculteurs qui, après tout, sont nos amis.
Edgar Faure a été ministre de l'Agriculture après Edgar Pisani, sous le général de Gaulle. Il faut dire que ces années 70, Edouard Lynch, ce sont aussi celles de certains spasmes très, très brutaux. On a en mémoire ce qui s'est passé à Montredon, près de Narbonne, en 1976.
Tout à fait, c'est l'illustration parfaite de ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire cette montée en puissance des mobilisations est d'une violence croissante qui ne cesse de se développer, en partie parce que finalement la répression ne vient pas. Et dans le cadre du Midi, c'est vraiment particulièrement clair.
Qu'est-ce qui s'est passé à Montredon ?
Eh ben, à Montredon, suite à l'arrestation d'un commando d'agriculteurs qui était allé dévaster dans l'Ain les entrepôts d'un négociant, hein, donc qui avait fait une expédition punitive à des centaines de kilomètres, l'arrestation de ces fauteurs de troubles, alors que jusqu'à présent l'État n'avait jamais poursuivi les fauteurs de troubles, on les connaissait tous, mais ils n'étaient jamais arrêtés parce qu'on n'osait pas, on ne prenait pas le risque. Et là, pour tout un tas de raisons, la décision est prise. Et cette décision provoque la fureur des viticulteurs et l'on voit se mettre en place, je dirais, une sorte de précipité de toutes les actions qui ont été progressivement élaborées depuis le début des années 60. On va détruire des camions, on va détruire les péages, on va détruire les perceptions, on va s'attaquer aux bâtiments officiels et on va aussi s'attaquer aux voies ferrées. Et c'est lors de cet épisode du blocage d'une voie ferrée et de destruction de wagons que la police, le face-à-face entre la police et les manifestants tournent au drame, puisque une fusillade éclate et un mort, on relève un mort de chaque côté. Et c'est vrai que ce moment est véritablement paroxystique et d'une certaine manière traduit une sorte d'apogée, puisque à partir de cette date, on peut globalement considérer que le mouvement de la violence reflue par rapport à ce qui s'était passé pendant les décennies précédentes.
Il faudrait dire aussi un mot naturellement du Larzac, auquel nous avions consacré une émission naguère et qui voit des paysans s'accrocher à leurs terres, avec déjà une inflexion en direction de l'écologie qui va marquer le début du XXIe siècle et que la figure de José Bové a incarné à bien des égards. À la fois l'idée de la malbouffe qu'il faut combattre, le début de l'agriculture bio, et en même temps une vision plus international, une préoccupation en quelque sorte planétaire en même temps qu'enracinée localement. Écoutez donc cette chanson qui lui est consacrée en 2001 par le groupe Chanson Plus Bifluée. c'est le moment où il vient avec quelques-uns de démonter un McDo à Millau.
Quand un McDo vient s'installer dans le midi, il ne doit pas s'étonner qu'on le démantèle. Quand un savant veut trafiquer un plan de riz, il y a des chances qu'on lui arrache sa parcelle. Il suffit d'un homme pour semer le bonheur, un homme simple qui porte un collier de fleurs. Bon José Bové, à la moustache ensoleillée, tu es le sage, le roi mage que l'on a tamé.
C'est très légendaire déjà, cette atmosphère qui entoure le jeune José Bové.
Oui, on a vraiment la construction d'une figure emblématique. Hein,
et on voit une, en tout cas, on disait que c'est difficile pour la paysannerie de faire surgir des personnages charismatiques. Celui-là l'est, incontestablement.
Celui-là l'est, incontestablement, même si voilà, c'est quelqu'un dont le parcours est assez original, puisque ce n'est pas un agriculteur enraciné, venu du cru, mais quelqu'un qui là aussi a fait un retour à la terre dans l'aventure du Larzac. Ce qu'on peut simplement souligner, c'est que
pour finir, hélas,
c'est que on a autour du mouvement du Larzac et de la figure de José Bové une inflexion profonde, hein, puisque en partie ce mouvement se construit contre l'héritage entre guillemets violent et protestataire de la FNSEA, de la même manière qu'il récuse son modèle productiviste, industriel et capitaliste pour une agriculture paysanne, pour une agriculture de produits, pour une protection finalement de l'environnement avec une dimension internationale. Donc on a vraiment une transformation très profonde et qui s'incarne effectivement dans cette déconstruction, enfin dans ce démontage du McDo. Là aussi, le clin d'œil, les concordances sont toujours intéressantes. Hein. Lorsque, en 1962, les premières destructions de pommes de terre ont lieu, le procureur explique que le terme de démontage revient aussi pour atténuer la responsabilité. C'est pas de la destruction, c'est du démontage. Et donc, on voit très bien là comment s'enchaîne et se glisse et s'interpénètrent les différents répertoires.
Eh bien, c'est sur la différence des répertoires dans la longue durée que nous allons clore notre conversation. Édouard Lynn, je vous remercie pour votre présence ce matin. Votre livre majeur s'intitule « Insurrection paysanne » au pluriel, « De la terre à la rue, usage de la violence au XXe siècle ». Il est paru récemment aux éditions Vendémiaire. J'ai rendu hommage chemin faisant aussi au grand livre de Jean Nicolas qui s'appelle « La rébellion française, 1661-1789 ». Qui est paru au Seuil en 2002 et qui a été réédité en 2008. J'ai évoqué le livre de Robert Paxton, Le temps des chemises vertes, révolte paysanne et fascisme rural, 1929-1939, paru au Seuil de la collection L'Univers historique. Samedi prochain, nous parlerons en direct du Salon du Livre de Christophe Colomb post-mortem. Il a connu des avatars au sens propre, son image a connu des avatars au sens propre, très très variés, depuis sa disparition. Je recevrai pour en parler Denis Crouzet. Lundi matin, vous retrouverez Emmanuel Laurentin pour la Fabrique de l'Histoire. Cette semaine, il parlera de la Bretagne, une histoire à part. Il rejoindra, j'imagine, certains propos que nous avons tenus ensemble, Edouard Lynch. Et puis à 17h tout à l'heure, vous retrouverez Amaury Chardot dans son émission Jukebox, qui portera sur l'Angleterre des années 60, Génération Mods, une histoire de style. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guérou et réalisée par Anna Holweck, avec Ludovic Auger à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque et Gwen Michel pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Voici Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.